Déjà bienvenue à la station au quai, à l'espace Aragon. Juste deux, trois mots pour ceux qui ne connaissent pas le quai. Donc c'est une association culturelle avec plusieurs objectifs, notamment d'éducation populaire, de débat, d'exposition. On fait des expositions ici, on fait des lectures théâtrales. Enfin voilà, on anime culturellement ce lieu. Voilà, donc c'est une association qui existe depuis 1996, qu'on a réactivé en fait en début d'année. Voilà, donc au mois de mars. Voilà. Donc avec une nouvelle équipe renouvelée. Donc tout le monde n'est pas là ce soir, mais voilà. Donc bienvenue. Donc ce soir, on a pris le parti pris ce soir, donc avec le mouvement français pour le revenu de base de Dordogne et le Quai, de faire une petite conférence débat autour du revenu de base. Comme on le sait, aujourd'hui, c'est une idée qui commence à arriver un peu dans les esprits, puisque dans certains pays, il y a déjà des choses qui avancent sur cette question. Et notamment en France, on n'est pas en reste, puisque avec toute transformation qu'il y a aujourd'hui dans la société, notamment avec l'actualité, avec la loi El Khomri, voilà, tout ce qui se passe actuellement sur la remise en cause de nos acquis sociaux, avec également cette révolution numérique qui arrive également, où effectivement, ah bah, il y a des gens qui continuent à arriver. Installez-vous. Installez-vous. Prenez des chaises.
Il
Allez-y.
m'entend libre, donc si vous voulez
Voilà,
aussi.
allez-y. Donc avec l'automatisation qui arrive, effectivement, l'humain va être de plus en plus disponible, puisqu'on va avoir besoin de moins en moins de main-d'œuvre, puisque tout va être remplacé par la machine. Plus ça va, plus on y vient. Donc ça pose par contre plusieurs questions aujourd'hui, notamment sur le partage du temps de travail, mais également sur la question du partage des richesses. Et donc on a voulu ce soir faire un débat autour de deux idées qui sont à la fois le revenu de base ou la question du salaire à vie, qui sont deux idées qui peuvent diverger, mais qui sont aussi à la fois complémentaires. Donc voilà, on va peut-être débattre ce soir, enfin on va débattre ce soir justement autour de ça, cette réflexion, salaire à vie, revenu de base. Les deux, enfin peut-être d'autres idées. Voilà, la parole, elle va être libre ce soir. Chacun pourra donner son point de vue et pour en débattre. Pour cela, donc ce soir, nous avons Arthur Mignon, qui est du Mouvement français pour le revenu de base. Je vais te laisser te présenter après brièvement. Et Nadja Martinez, qui est la présidente du Quai et qui va également intervenir ce soir, plus sur la question du salaire à vie. Voilà, et puis bon, aussi sur la. Voilà, et on va vous diffuser un petit film autour du salaire à vie de Bernard Friot. Et puis Arthur Mignon va nous faire quelque chose autour du. Enfin, va nous parler du revenu de base. Voilà. Donc voilà, on va donner tous ces éléments. Donc je vais laisser nos intervenants commencer. Donc je vais te laisser commencer peut-être, Arthur.
D'accord,
Voilà.
très bien.
Alors, présente-toi brièvement.
D'abord, avant de me présenter, merci à l'association Le Quai d'avoir pu organiser cet événement, parce que c'est assez rare quand les deux points de vue peuvent être confrontés face à un public. Et puis je remercie ma collègue Véronique qui est
Invisible
ici.
pour la première fois de sa vie.
Voilà, d'être là ce soir. Vous avez aussi Madame Sylvie Crozès qui vient de nous rejoindre, qui est aussi membre du groupe local de Périgueux, du Mouvement français pour un revenu de base. Et puis moi, je suis Arthur Mignon, j'ai rejoint le Mouvement français pour un revenu de base en 2015. Et depuis, avec les collègues du groupe local, on mène quelques actions de sensibilisation, de communication sur ce thème-là. Alors, je vais tout de suite commencer à présenter l'idée d'un revenu inconditionnel, mais d'abord, je vais présenter un peu qui je suis socialement parlant. Dernièrement, dans le programme du théâtre L'Odyssée, j'ai vu le programme d'une pièce de théâtre qui parlait justement des gens qui sont un peu dans ma condition. Et donc, je vais vous faire partager la présentation qui a été faite de la pièce de théâtre Relapse. Ces nuits-là, deux jeunes tournent en rond dans un appartement tapissé de livres. Ils ont besoin de se défouler. Ils hésitent et veulent prendre de grandes décisions. Ils ne comprennent plus grand-chose à ce qui se passe. Ils ne se sentent pas bien à leur place dans la société. Tout laisser tomber et partir, continuer et rester là. Comme tout le monde, ils cherchent des repères, mais y en a-t-il encore à trouver? Elle et lui, c'est un couple indéfini. Amis, amants, frères et sœurs, collègues, voisins. Nés dans les années 80 et élevés avec la garantie que leur vie serait meilleure que celle de leurs parents, ils n'ont pas accès au travail ou de façon précaire. Au fait, en veulent-ils vraiment? En veulent-ils vraiment? C'est cette question qui a retenu mon attention parce que il n'y a pas si longtemps de ça, j'étais à la direction départementale de la solidarité et de la prévention face à des personnes de l'assistance sociale dont le but était de m'aider à me remettre sur le chemin de l'emploi. Et quand on est confronté aux administrations en général, mais à cette administration-là en particulier, on se rend compte d'une chose, c'est que quand il s'agit de toucher son RSA, en fait, et toutes les allocations connexes, on est considéré comme une personne qui n'a de besoin en matière de culture, en matière d'éducation, en matière d'aide matérielle, tout simplement, que si vous avez un objectif d'emploi au bout du chemin. Et donc, cette situation-là, pour beaucoup de personnes, dans mon cas, qui peut-être se reconnaîtront dans le public, ça entre en concordance avec ce qu'avait dit en 1516 Monsieur Thomas More, un humaniste anglais. Et dans son petit livre, il avait dit, pour décrire un peu la nature de l'État qui, à son époque, est incarné par le prince, tout ce que chacun possède est à lui et jusqu'aux personnes mêmes. Un sujet, en fait, n'ayant de bien que ce que la générosité royale consent à lui laisser. Et l'intérêt du prince exige que ce soit le moins possible. Car il serait dangereux pour sa sûreté que l'argent et la liberté montassent à la tête du peuple. Donc voilà. Aujourd'hui, on est dans une situation où vous avez une société construite sur un rapport de domination avec les riches tout en haut, qui sont ceux à qui on prête de l'argent, à qui les banques prêtent. Les banques ne prêtent pas aux pauvres, évidemment. Et pour avoir accès à leurs moyens de subsistance, donc à l'argent, les pauvres sont contraints de se vendre sur un marché de l'emploi. Donc, à partir de là, on se pose la question. Comment sortir d'un tel rapport de domination? Eh bien, pour ma part, j'ai choisi de m'engager pour l'instauration d'un revenu inconditionnel. Et c'est cette idée-là, cette idée novatrice que je m'apprête à présenter un petit peu plus en profondeur. Donc déjà, l'idée d'un revenu de base inconditionnel dans l'histoire contemporaine, on a parlé de Thomas More, là c'est à la Renaissance, l'époque moderne. Mais l'histoire contemporaine qui commence à partir de 1789, à partir de la Révolution française, a vu émerger un monsieur qui s'appelait Thomas Paine, qui était un révolutionnaire à la fois américain, britannique, français, et qui s'est fait élire en 1792 député à l'Assemblée nationale. Alors certes, Thomas Paine était un élu, mais dans sa démarche, il souhaitait de tout cœur l'instauration de la démocratie réelle par rapport à la démocratie représentative. Puisque le système de démocratie représentative dans lequel on est actuellement a été impulsé par un monsieur qui s'appelle l'abbé Sieyès, à l'époque de la Révolution. Et il a fait ça, il a conçu ce système-là, qui est appliqué encore aujourd'hui, parce qu'il ne voulait pas de la vraie démocratie. Et Thomas Paine, quand même élu, dit, phrase lapidaire mais ô combien vraie, sans revenu, point de citoyen. Cette idée-là, il l'a développée dans un petit ouvrage, La justice agraire, où il dit, à l'époque, il adhérait un petit peu aux idées des physiocrates qui pensent que tout part de la nature, des produits de la nature, et que seuls les produits de la nature sont la vraie richesse. Il dit, à partir du moment où vous avez des personnes qui ne possèdent pas leur terre, il faut leur attribuer un revenu inconditionnel en compensation de cette perte-là. afin qu'elles puissent assurer leur subsistance dans la société et qu'elles puissent ensuite être libres et ne pas avoir directement à vendre leur force de travail pour obtenir des revenus. Donc, on le voit, ce concept à présent de revenu de base inconditionnel, il n'a pas été défendu en premier lieu par des personnes qu'on qualifierait aujourd'hui de réactionnaires. Leurs idées à l'époque étaient quand même novatrices, voire révolutionnaires. Même si l'idée du revenu de base inconditionnel après la Seconde Guerre mondiale, c'est-à-dire à une époque toute récente, a été portée aux États-Unis par un monsieur qui s'appelle Milton Friedman, un économiste libéral. Et il a réussi à porter cette idée jusque dans le programme du candidat républicain aux élections qui était Richard Nixon. Et il faut savoir qu'à la même époque, son opposant démocrate avait lui aussi intégré une forme de revenu de base inconditionnel dans son programme. Donc voilà, l'idée qui a commencé véritablement à décoller dans les années 1970-1980. Et c'est à cette époque qu'en France, alors à cette époque-là, il y a eu l'expérimentation, il faut le souligner, Mincom au Canada. Mincom en anglais, ça veut dire revenu. Et à cette époque-là, en France, dans les années 80, il y a un monsieur, un économètre, cette fois, pas un économiste, mais un économètre, qui s'appelle Yolande Bresson, qui a lancé l'association pour l'instauration d'un revenu d'existence. Yolande Bresson, qui est décédé récemment, et aujourd'hui, c'est un monsieur qui s'appelle Marc de Basquiat, qui préside l'association. Et Marc de Basquiat a tout récemment publié un livre coécrit avec Gaspard Koenig, de Génération Libre. Le livre a pour titre Libère, un revenu de liberté pour tous. C'est ce petit ouvrage que j'ai là, la couverture bleu ciel. Comme ça, vous le reconnaîtrez si jamais vous souhaitez l'acheter, le lire. Et alors, cette idée de revenu de base inconditionnel qui est exposée dans cet ouvrage a en général mauvaise presse dans les milieux progressistes parce qu'elle se fonde sur une idéologie libérale. Ces auteurs eux-mêmes se revendiquent libéraux. Mais à la lecture de ce petit ouvrage, on constate quand même plusieurs choses. Déjà, à l'intérieur, ils critiquent la notion de droit naturel. Droit naturel sur laquelle est fondé le caractère sacré et inaliénable de la propriété, tel qu'exposé dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. C'est sur ce droit inaliénable de la propriété, justement, que se fonde aujourd'hui le capitalisme industriel. Dans cet ouvrage, il ne nie pas l'existence des classes sociales, il parle des classes sociales, et il privilégie la redistribution d'une partie des revenus des classes riches vers les classes pauvres. Il prône l'égalité de tous devant l'impôt, par la volonté de supprimer les niches fiscales. Il ne remet pas en cause les cotisations sociales, essentielles pour financer la santé, les retraites, le chômage. Vous verrez à la toute fin de l'ouvrage des exemples de fiches de paye. Les cotisations sociales sont toujours là. Ils ne remettent pas en cause le droit au logement, en conservant les aides au logement en parallèle du revenu de base, versé en plus du crédit d'impôt qui est le revenu de base qu'ils envisagent. Et ils invitent surtout à se défaire de la notion de mérite quant à la distribution des revenus hors travail, distribution aujourd'hui encadrée par le droit et gérée par les administrations. Et ils prônent le libre et plein développement d'une personne humaine épaulée par la communauté, dont la singularité est reconnue. Ça, c'est vraiment l'esprit du revenu de base, quelles que soient les tendances. Par là même, ils distinguent clairement dans l'existence matérielle des êtres humains l'essentiel, assuré par un revenu sans condition, qui doit être assuré pour tous, du superflu qui, lui, peut être exposé au libre jeu de la concurrence, au libre jeu du marché. Donc, voilà, là je vous ai présenté vraiment la version la plus médiatisée de revenu de base, c'est celle en général à laquelle pensent les gens qui, quand ils entendent revenu de base, pour avoir écouté un petit peu la radio ou lu un petit peu la presse, c'est celle qui est la plus médiatisée aujourd'hui. Mais il faut savoir qu'au sein de notre mouvement, qui est un mouvement transpartisan et pas du tout un parti politique, vous avez un large spectre de propositions de revenu de base inconditionnel qui vont s'exprimer si jamais une mise en place a lieu selon différentes modalités. Et donc, vous avez en parallèle de la proposition Libère, la proposition d'un monsieur qui s'appelle Baptiste Milondo, qui a beaucoup dialogué justement avec Bernard Friot, que Nadja va vous présenter tout à l'heure, Les deux hommes se connaissent très bien d'ailleurs. Baptiste Milondo, lui, est pour l'instauration d'une dernière tranche d'impôt sur le revenu à 100%. C'était Georges Marchais, justement, qui préconisait ça de son vivant. Idée qui a été reprise ensuite par Jean-Luc Mélenchon du Parti de gauche pour instaurer un revenu plafond, en fait. Et donc, lui, ce qu'il envisage, Baptiste Miondo, il dit le PIB de la France est suffisant pour financer pour chaque personne un revenu de base inconditionnel de 1 000 euros par mois. 1 000 euros par mois, c'est 500 euros de plus, c'est le double de ce qui est envisagé dans la proposition Libert. Donc, lui, Baptiste Milondo, il souhaite remettre en cause le chômage. Alors, dans son esprit, remettre en cause le chômage, c'est remettre en cause le chômage comme une espèce d'institution artificielle qui maintient dans la précarité une population pour effrayer un petit peu les gens qui sont déjà dans l'emploi et qui vont se dire, mon Dieu, mais si je perds mon emploi, qu'est-ce qui va m'arriver? Ça va être terrible. Donc, au moins avec 1 000 euros par mois, si jamais vous vous retrouvez au chômage, ça ne sera pas aussi terrible. Et vous pourrez envisager, voilà, des activités, un travail en dehors de l'emploi. Donc, sachant que là, on raisonne toujours en fonction de l'individu, hein, pas du foyer, c'est 1 000 euros par individu. C'est-à-dire un couple avec enfants gagnera un couple avec deux enfants gagnera 2 500 euros par mois inconditionnellement. Parce qu'il y a aussi le revenu de base enfant qui lui est d'un revenu inférieur au revenu de base adulte et versé aux parents des enfants. Donc, voilà, stratégie de Baptiste Milondo, impôt sur le revenu, impôt progressif. Une stratégie qui doit tenir compte, cependant, d'un petit détail. Un petit détail qu'avait souligné un monsieur qui s'appelle André Gorz. André Gorz, philosophe éco-socialiste, qui est décédé il n'y a pas très longtemps non plus. Et il a dit, dans un monde où la création de richesses dépend de moins en moins du travail des humains, avec les gains de productivité qui sont réalisés par les progrès technologiques, il faut s'interroger sur la pertinence de la taxation des revenus du travail des humains. Mais ça ne remet pas en cause, par exemple, la taxation des revenus de la rente, hein. Par exemple, quelqu'un qui est propriétaire d'usine, qui fait du profit avec son bien. Lui, on lui taxera quand même ses revenus, même si ce ne sont pas des revenus du travail, c'est des revenus de la rente. Donc, au dire de M. Milondo, sa proposition serait compatible avec le capitalisme, sous-entendu avec le système juridique qu'on a actuellement, mais on ébranlerait tous les fondements. Donc, on ébranlerait, voilà, la base sur laquelle il repose, c'est-à-dire le travail des salariés, en fait, l'exploitation de ce travail. Mais la proposition de M. Milondo, pour révolutionnaire qu'elle soit, ne remet pas en cause une chose fondamentale qui est la nature même de la monnaie qui est utilisée pour ponctionner les revenus du travail ou les revenus de la rente et pour assurer leur distribution. Il faut savoir que, si vous ne le savez pas déjà, tous les euros que vous utilisez ont été créés par les banques commerciales. Les États n'ont plus le privilège de la création monétaire depuis un certain temps déjà. Pour qu'il y ait des euros qu'on utilise, il faut qu'il y ait des gens qui ont besoin d'argent et qui sont capables de rembourser ce crédit-là, qui aillent auprès d'une banque, qui demandent au banquier, voilà, faites-moi un crédit. Le banquier, après avoir vérifié la solvabilité du client, dit, OK, c'est bon. Alors, à partir de là, le banquier va créer l'argent artificiellement, c'est de l'argent sorti de nulle part. Hein. C'est clavier d'ordinateur, je tape le montant, hop, pouf, vous avez un compte avec votre solde crédité. Et sauf que la magie ou la sorcellerie du crédit, en fait, c'est que dans un crédit, vous avez trois parties. Vous avez le principal, l'argent qui vous a été prêté. Et ce principal-là, à mesure que le crédit est remboursé, il est détruit. C'est création, destruction. Mais vous avez aussi deux autres parties dans le crédit. Vous avez les intérêts, qui eux ne sont pas destinés à être détruits. Les intérêts, c'est un paiement, et le banquier les récupère. Vous avez une troisième partie qui est l'assurance en cas de défaut de paiement, hein, d'autres personnes qui ont pu mentir un peu sur leur dossier, on leur a quand même fait crédit, mais ils n'étaient pas solvables finalement. Bon, faut quand même que l'ensemble des personnes qui ont accordé un crédit payent une assurance en cas de risque. Et intérêt assurance, c'est de l'argent qui vient aussi du crédit qu'on a fait à d'autres emprunteurs. Ce qui fait que pour assurer la viabilité d'un tel système, il faut en permanence prêter, prêter, prêter et prêter encore, c'est-à-dire en permanence créer, créer, créer et récupérer par la destruction et en ponctionner une petite partie que les banquiers utiliseront pour eux. Et alors, petit détail aussi, pour les pièces et les billets de banque, en fait, elles sont achetées à la banque centrale par les banques commerciales. En échange de titres de dette, c'est-à-dire que quand vous payez les intérêts de votre crédit, quand les États payent des intérêts sur un crédit, quand tout le monde paye des intérêts sur un crédit, une partie des intérêts sert à financer les billets et les pièces que vous utilisez quand vous allez retirer au distributeur. Donc voilà comment ça fonctionne. Et alors, ces phénomènes-là ont été décrits avec brio par un monsieur qui s'appelle Gérard Fouché. Donc, je vous conseille la lecture. Là, j'ai le livre sous mon siège. Les secrets de la monnaie, changer la monnaie pour changer le monde. Et il parle à la fin de son ouvrage de monnaie alternative et en particulier des monnaies à dividendes universels. Donc, dividendes universels égale revenu de base. Hein, c'est deux mots pour une même chose. Donc, ces monnaies-là seraient destinées à remplacer l'argent dette dont je viens de parler. Et vous avez déjà des systèmes en place qui existent, qui sont fondés à partir de monnaies libres, c'est-à-dire indépendantes des monnaies qui ont cours légal, et qui se fondent sur la théorie relative de la monnaie, théorie qui a été théorisée justement par un monsieur qui s'appelle Stéphane Laborde. Théorie de la monnaie, ça veut dire quoi? Tout simplement, ça veut dire qu'on change le référentiel pour compter. Avec des euros, le référentiel que vous utilisez, c'est l'unité de monétaire euro. 1 euro, 2 euros, 3 euros. Voilà, c'est l'unité. Avec la théorie relative de la monnaie, on utilise le revenu de base pour compter. On va dire une chose ne vaut pas tant d'unités. On dira plutôt une chose vaut tant de revenus de base versés dans cette unité. Voyez un petit peu la différence. Ce qui fait qu'on est dans un système où la monnaie n'est plus créée par des banques, mais est créée par les utilisateurs eux-mêmes du fait d'exister. D'où le terme aussi revenu d'existence. Ils créent la monnaie avec leur revenu de base régulièrement, et leur revenu de base vient alimenter la masse monétaire qui gonfle éternellement. Mais ça, c'est pas un souci. Puisque comme on a changé de référentiel, qu'on ne part plus en termes d'unité, mais de revenu de base pour compter, et que le montant du revenu de base s'adapte à la quantité de monnaie qui existe, s'adapte à la masse monétaire. Plus la masse monétaire est grosse, plus le revenu de base est important. Il n'y a pas de souci. La masse monétaire peut gonfler, on reste dans un système viable. Et ce système-là, il a été créé pour justement mettre fin à ce qu'on vit actuellement, c'est-à-dire un système de dissymétrie, voilà, ou d'asymétrie plutôt. Il s'agit de se fonder sur des symétries pour repenser la monnaie, repenser le rapport des gens à la monnaie. Et voilà, repenser les rapports sociaux en général. Donc, en parallèle de ça, alors là on parle de monnaie libre, mais pour ce qui est des euros, il y a des personnes qui souhaitent intervenir sur la monnaie euro, sur les monnaies ayant cours légal, qui dépendent d'une banque centrale, pour faire un petit peu la même chose. Vous avez l'association britannique Positive Money, qui milite, elle, pour le quantitative easing for people. Vous en avez peut-être déjà entendu parler en français, c'est allègement quantitatif pour le peuple. Alors, le quantitative easing, jusqu'à présent, ça consistait en fait à donner des liquidités aux banques pour éviter qu'elles ne s'effondrent ou en tout cas pour relancer leur activité. Puisque les banques sont too big to fail, c'est-à-dire trop grosses pour tomber. Si elle tombait, on serait un petit peu ennuyé, puisque de la bonne santé des banques, en fait, dépend l'existence même des unités de compte qu'on utilise pour nos achats. Donc, qu'elle s'effondre, ce serait un petit peu embêtant. Donc, l'esprit du quantitativism for people, c'est de dire au lieu de verser de l'argent aux banques, on va verser de l'argent. Les banques centrales vont verser de l'argent directement aux gens sous forme d'un dividende et d'un dividende universel, puisqu'on ne regarde pas qui travaille, qui ne travaille pas, qui est vieux, qui est jeune, qui est sans papier, qui a des papiers. Bon. Oui, puisque dans la plupart des versements de revenus de base envisagés, on envisage quand même un droit du sol, hein, c'est-à-dire papier ou sans papier, on verse quand même un revenu de base, puisque les sans-papiers travaillent et même il y en a parfois qui paient des impôts, ce qui est assez extraordinaire. Donc, à partir de là, à partir des monnaies libres, libres des banques, apparaît quelque chose qui, fondamentalement, moi, porte, en tout cas, mon combat pour un revenu de base inconditionnel, qui est la sortie du politique. C'est-à-dire qu'avec le système d'allocation actuel, en particulier le système d'allocation versé au titre de l'assistance sociale dont je parlais au début, vous avez un pouvoir, et en l'occurrence aujourd'hui le pouvoir des plus influents, c'est-à-dire des plus riches, qui dit telle ou telle personne n'a pas droit à l'argent. Avec les monnaies libres et les monnaies libres à dividende universel, on ne regarde pas qui a droit ou qui n'a pas droit à l'argent. Et vous avez, par ce système-là, la résolution des conflits de génération, puisque en créant de l'argent et en le distribuant à tous, les montants détenus par les uns et les autres vont s'équilibrer. Exactement comme quand vous avez des enfants qui naissent, on va dire, à 2 ans d'intervalle, admettons 3 sœurs. L'une a 9 ans, l'autre a 6 ans, l'autre a 3 ans. Il y a 3 ans de différence entre chacune de ces sœurs. Quand elles sont enfants, 9 ans par rapport à 3 ans, ça représente un grand écart d'âge dans l'absolu. Mais laissez-les grandir un peu, laissez-les vieillir, laissez-les devenir âgées. Et quand elles auront la cinquantaine, l'une aura 53 ans, l'autre 56 ans, l'autre, la troisième 59 ans. Et là, l'écart d'âge rapporté à leur âge total ne sera plus aussi important. Donc là, je viens de vous décrire un peu le mécanisme des monnaies libres à dividende universel. Donc aujourd'hui, où on est dans un système où les gens âgés sont en général plus fortunés, possèdent plus de moyens financiers que les personnes jeunes, on a résolution des conflits de génération dans le temps. Et alors, face à l'idée d'un revenu de base inconditionnel, souvent les personnes se posent la question de la justice, et en particulier de la justice sociale. Là, je viens de vous exposer quelques points de résolution, mais je vais répondre d'avance à 2 questions qui sont récurrentes, qui nous sont posées. La première, c'est pourquoi donner un revenu de base aussi aux riches? Eh bien, je vais vous répondre parce que le rôle de l'argent, ça n'est pas tant de répondre à un besoin, hein, acheter de quoi manger, acheter, payer son électricité, ce n'est pas tant de répondre à un besoin que de maintenir un rapport de domination, une relation de pouvoir, si vous voulez. Donner aussi aux riches brise le pouvoir qu'ont les institutions à l'heure actuelle de trier entre ceux qui méritent et ceux qui ne méritent pas l'argent. Ensuite, deuxième question qui nous est posée fréquemment, est-il juste de distribuer un revenu de base de manière égale? C'est vrai, on va dire quelqu'un qui a des moyens, on va lui donner la même somme que quelqu'un qui n'a pas de moyens. A priori, ça paraît injuste. Mais c'est à cela je répondrai que on ne peut pas décider pour un individu, une personne, ou même un petit groupe de personnes, ne peut pas décider pour l'ensemble du corps social ce qui est juste ou non de faire, en fonction de critères moraux qui lui appartiennent. La justice, c'est quelque chose qui s'exerce toujours dans le cadre de conventions, autrement dit, dans un cadre juridique, plus ou moins formel. Or, les lois, aujourd'hui, ne répondent pas toujours de manière satisfaisante aux besoins réels de ceux sur lesquels elles s'appliquent. Alors on dira, Certes, mais les lois ne sont pas faites pour le bon plaisir des uns ou des autres. C'est quelque chose qui a été fixé, voilà, juridiquement, par la démocratie élective aujourd'hui. Certes, mais sauf que à partir du moment où on est tombé dans un système dit libéral et démocratique, en théorie, les lois devraient servir les intérêts du peuple tout entier. Or, ce n'est pas le cas. On est aujourd'hui, de fait, dans un système plutocratique. Quand bien même la forme juridique est là pour brouiller un peu les pistes, mais bon. Donc les lois, comme au temps de la monarchie, sont en général l'émanation d'un pouvoir. Et dans le système actuel d'asymétrie, dont j'ai parlé tout à l'heure, l'émanation du pouvoir des plus influents. Si par exemple l'égalité du montant du revenu de base constitue pour vous une injustice face à l'inégalité des prix à la consommation qui varie d'un endroit à un autre, les loyers sont plus chers à Paris qu'en province. Il faut déjà plutôt que commencer à s'interroger, mais pourquoi le revenu de base devrait être égal? Déjà commencer à vous poser la question, pourquoi il y a cette différence de prix là? Et en répondant à cette question, à mon avis, vous résoudrez pas mal de choses d'un point de vue idéologique, je pense. Donc pour conclure, aujourd'hui, travail, impôts, propriété sont les trois piliers qui garantissent la valeur de l'argent. Ces trois piliers reposent sur la notion de mérite ou de normalité, car il faut bien contribuer à la société, comme on dit souvent. Quelqu'un qui brise les codes de cette normalité est un voleur ou un fraudeur. Bon, ça, j'ai déjà pu l'expérimenter à de nombreuses reprises. Je pense que les personnes présentes ici ont pu l'expérimenter aussi. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'on ne peut me voler que ce qui me revient de droit. Hein, notion du droit importante. Mais qui détermine le droit sinon l'État ou la coutume? Or, dans un système de gratuité, il n'y a pas de vol possible. Le but d'un revenu de base inconditionnel est d'instituer la gratuité de l'argent. Alors on ne vous identifiera plus socialement à la quantité de capital que vous possédez ou au montant des revenus que vous êtes capable de générer. Vous serez un être humain égal à n'importe quel autre. Et c'est peut-être cela, à mon sens en tout cas, commencer à abattre la société de classe. Voilà, je vous remercie.
Merci.